Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec Colette Cosnier ou l'histoire d'une auto-invisibilisation et d'une invisibilisation d'une spécialiste des oubliés au masculin, puis des oubliés au féminin de l'histoire. Colette Cosnier me paraît très représentative de la condition féminine actuelle, de mon propre parcours et peut-être du parcours actuel de nombreuses femmes. En 1995, je soutiens mon mémoire de maîtrise en lettres modernes sur L'amant de Marguerite Duras. Je m'interroge sur ce qu'on appelle la lecture plurielle d'une œuvre, ici celle de l'amant. J'ai interrogé 15 personnes qui m'ont raconté comment ils avaient lu l'amant. J'obtiens une mention très bien à mon mémoire. Je me demande alors si je ne vais pas faire une thèse sur les autrices du 19e siècle. J'écris à mon directeur de mémoire et je lui demande « Pourquoi si peu de femmes écrivains ? Est-ce parce que les femmes n'écrivaient pas ? Ou est-ce parce que l'histoire ne les a pas retenues ?» Il ne répond pas. Il ne répondra jamais. Comme je suis encore surprise d'être arrivée à ce niveau universitaire après avoir vécu le chagrin d'école dont parle si bien Pénac dans son livre éponyme, je pense que ma question est sans intérêt ou mal posée. Et je décide de tenter de devenir professeur. L'aventure de la transmission et la réparation des élèves me paraissent des voies nobles et réparatrices pour une ancienne mauvaise élève. Et c'est le cas. Je n'oublie jamais le bonheur insatiable de transmettre et la joie d'apprendre ensemble. En 2001, je découvre Colette Cosnier. Mon père m'offre Le silence des filles qu'il me dédicace ainsi. Pour t'inciter à le briser, ce silence. C'est que je continue tout de même à chercher pourquoi les femmes se taisent. L'essai commence en répondant à la question que je me suis posée. Madame de Sévigné, George Sand, la comtesse de Ségur, Madame Vigée Lebrun, ce sont les premiers et souvent les seuls noms qui viennent à l'esprit lorsqu'on demande de citer des femmes d'autrefois ayant écrit des livres ou peint des tableaux. Pourquoi sont-elles si peu nombreuses, alors que les noms d'hommes célèbres s'alignent en rang serré? Y aurait-il une glande endocrine de la création? Un livre serait-il sécrété comme une hormone? À 15 ans, en 1830, la jeune Marie Carpentier est juchée sur un toit de la rue des Levallois à La Flèche. Elle qui deviendra la pédagogue Marie-Pape Carpentier, fondatrice de l'école maternelle, s'est installée là pour écrire des poèmes, comme si elle n'avait pas une place en bas dans la maison. Pourquoi sur ce toit? La réponse, c'est Charlotte Brontë qui l'a fournie lorsque Janer s'adresse à ses lecteurs. Je grimpais à l'étage supérieur, je soulevais la trappe de la mansarde, et parvenue sur le toit, je portais mon regard au loin. Qu'alors j'aspirais à posséder un pouvoir de vision qui me permit de dépasser ses limites, que je regrettais de ne pas posséder plus d'expériences concrètes. Consciente de l'incongruité de son attitude, elle fait précéder cet aveu d'une précaution oratoire. Me blâmera qui voudra. Comme pour lui faire écho, une farandole de jeunes filles pensionnaires du couvent des Anglaises escalade tuiles et ardoises. À leur tête, Aurore Dupin, qui devenue George Sand se souviendra de ses équipées. De la mansarde où j'étais censée faire des gammes, j'observais un labyrinthe de toits, d'auvents, d'appentis, de soupentes, le tout couvert en tuiles moussues et orné de cheminées éraillées qui offraient un vaste champ à des explorations nouvelles. Que font-elles là-haut ? Elles dominent les bâtiments et les cours, elles découvrent les jardins. Dominer ? Découvrir ? Est-ce bien le but de l'éducation qui est donnée aux filles de ce temps-là ? Un siècle plus tard, à 17 ans, Anaïs Nin décrit ainsi une journée idéale. J'ai pris mes livres, du papier et un crayon et je me suis installée sur le toit au-dessus de l'entrée. J'ai fait des exercices de grammaire française, j'ai appris par cœur des poèmes, je me suis plongée dans la pensée de Bossuet et ses magnifiques démonstrations. Je me suis surprise parfois à rêver, distraite par cette merveilleuse tranquillité et les feuillages des arbres si près de moi. Marie-Pape Carpentier, Jeannère, Anaïs Nin, le rapprochement n'est pas fortuit. La demoiselle sur le toit est un symbole. Ces jeunes filles foulent aux pieds le domaine qui leur est réservé. Le toit, c'est le royaume du vent, des chats, des voleurs. Ce n'est pas celui des jeunes personnes bien élevées. Qu'arrive-t-il à Jeanne, l'héroïne d'une histoire édifiante qui s'est penchée par la fenêtre pour entendre un orgue de barbarie? Elle est tombée et les jeunes lectrices n'ont plus qu'à méditer la leçon. Jeanne, désormais, n'aura plus envie de s'envoler comme un oiseau. Jeanne restera à sa place, au coin du feu, comme Eugénie de Guérin qui est assise près de la cheminée avec sa quenouille. Le toit, c'est aussi la tête, le domaine du masculin. En bas, il y a le ventre, la cuisine. Un livre de classe raconte l'histoire de la femme de la caverne. L'homme préhistorique est dehors, il chasse, sa femme orne de fleurs leur abri, et ainsi crée la première délicatesse du nid familial pour adoucir l'homme et le charmer. À l'écolière de continuer le beau, le noble rôle de sa maman et de la femme de la caverne, l'embellissement et la joie du foyer. Foyer paternel, conjugal, bonheur du foyer, livre du foyer, femme au foyer, pas sur le toit. Mais revenons à Colette Cosnier. Elle est née le 28 avril 1936 à La Flèche. Fille unique d'une mère couturière et d'un père électricien. Sa mère a beaucoup d'ambition pour elle et surveille de près sa réussite scolaire. Elle entre à l'école Marie-Pape Carpentier et voici ce qu'elle en dit. Dans Marie-Pape Carpentier, de l'école maternelle à l'école des filles. Je suis née à La Flèche, au numéro 2 d'une rue dont le nom intriguait bien, dans mon enfance, les gens de passage qui parfois demandaient qui était ce pape. Je riais beaucoup car moi, je savais. Pape Carpentier, ce n'était pas un pape, mais une dame qui avait inventé l'école où j'avais compté des bûchettes, malaxé de la pâte à modeler et chanté « Dame Tartine ». Ma première école, l'école maternelle, était en effet située à l'autre extrémité de la rue Pape Carpentier. Elle a ensuite la chance d'entrer au lycée dans une école mixte. Voici un premier extrait de l'entretien imaginaire de Patricia Godard avec Colette Cosnier dans « Colette Cosnier, un féminisme en toutes lettres ». Et par la suite, vous êtes allée au lycée ? Il n'y avait pas de lycée à La Flèche, à part le Prytané, seulement pour les garçons. Sinon, il fallait aller au Mans ou à Angers, où jamais mes parents ne m'auraient laissé partir. Mais j'ai eu beaucoup de chance. En 1951, M. Fellman, alors directeur du collège moderne des garçons de La Flèche, où l'enseignement s'arrêtait en troisième, ouvrait, sans autorisation officielle, parce qu'il voulait faire avancer les choses, une seconde, mixte, au collège moderne. Je retrouvais ma rue, Pape Carpentier. J'avais eu de bons résultats à mon brevet et mes professeurs avaient sans difficulté convaincu mes parents qu'il fallait que je continue un cycle long. La mixité était une nouvelle expérience pour nous qui sortions d'établissements uniquement constitués de filles. Une vraie bouffée d'oxygène. Ensuite, de 1954 à 1963, Colette Cosnier étudie les lettres modernes à la faculté de Rennes jusqu'à l'obtention d'un diplôme de troisième cycle. Très vite, elle travaille. D'abord comme monitrice, puis après 1963, elle obtient un poste à Saint-Michel-du-Perray dans le privé tout en préparant l'agrégation. Colette Cosnier, correspondance avec Jacques Vierre, 13 juillet 1964. La Flèche, 13 juillet 1964. Mon expérience de cette année m'a montré qu'il fallait beaucoup de temps pour préparer mes cours. D'autre part, je n'ai pas une santé assez forte pour ajouter à cela un travail personnel intensif. Et je me suis rendu compte aussi que je ne pourrais jamais négliger l'intérêt de mes élèves au profit du mien. Je sais trop bien que je me sentirais obligée de faire passer mes cours avant la préparation de ma thèse. J'en arrive à me demander si je ne vais pas renoncer à l'enseignement qui m'accapare trop, aussi bien du point de vue travail que du point de vue humain, et qui, de plus, ne peut m'assurer qu'un salaire misérable, car je tiens trop à mon sujet de thèse pour l'abandonner. Voilà, monsieur le professeur, quelles sont ma situation actuelle et mon état d'esprit. Je suis angoissée par ces perspectives et horriblement déçue de constater que mes espoirs sont morts. J'ai l'impression d'avoir, je n'ose dire gâché, mais tout au moins passé 2 ans à une occupation vaine, puisqu'une thèse de 3e cycle ne peut me permettre que de corriger des dictées. Ma situation matérielle ne me permet pas, hélas, de faire de l'art pour l'art. Ne croyez pas que j'affecte ici une inquiétude passagère ou superficielle. Je ne vois aucune issue. J'avais trop rêvé à l'enseignement supérieur et 3 ans de monitorat n'avaient fait qu'accroître ces rêves. Pardonnez-moi, monsieur le professeur, de vous importuner avec ces réflexions amères et croyez en mon profond respect. Mai 68 arrive et elle obtient un poste en littérature comparée à la faculté de Rennes. 2e extrait d'un féminisme en toutes lettres de Patricia Godard. Vous avez vraiment un parcours atypique. On vous l'a fait ressentir au cours de votre carrière de professeur ? Des collègues me snobaient un peu parce que je n'étais pas agrégée. Quelquefois, j'annonçais la couleur tout de suite en réunion. Je commençais en disant « Moi qui ne suis pas agrégée, je me permettrais quand même de dire que… » Rire. Mais c'est vrai que ça revenait souvent. Le milieu universitaire n'est pas un milieu facile ou bienveillant. De mon côté, j'avais aussi mon caractère. Colette Cosnier devient maîtresse de conférences en littérature comparée. Elle ne sera jamais professeure parce qu'elle n'a pas l'agrégation et qu'elle enseigne une matière méprisée par ses pairs. Voici ce qu'elle écrit lors d'un entretien avec Patricia Godard en novembre 2012. « Ma chance, c'était la littérature comparée. Vous connaissez le principe de la littérature comparée ? On prend un texte anglais, on le met avec un texte français ou en espagnol, ce qui faisait dire aux collègues de littérature française que c'était lamentable, qu'on ne faisait rien et qu'on n'étudiait que des traductions. En particulier, il y avait un prof qui disait ça et qui était très déplaisant. Je lui ai demandé en quelle traduction il lisait la Bible. Il était assez dévot et je sais qu'il ne la lisait pas en hébreu. Rire. C'est comme ça que j'ai commencé à proposer un cours qui avait pour but de faire entendre les voix des femmes dans la littérature. Mais sans thèse ni agrégation, je ne suis jamais devenue professeure. Elle ne soutient son habilitation à diriger des recherches qu'en 1996, 3 ans avant sa retraite. Voici un extrait du discours tapuscrit adressé au jury d'habilitation. Oui, je suis en retard. La procédure d'habilitation date, je crois, de 1988. Pourquoi ne m'en suis-je pas préoccupée plus tôt ? Oserais-je dire que j'en ignorais l'existence ? C'est seulement il y a 2 ans que, voyant les maîtres de conférences de mon ancienne université constituer fébrilement des dossiers, je me suis renseignée. Amis et collègues me suggéraient d'en faire autant. Avec tout ce que vous avez fait, qu'attendez-vous pour demander votre habilitation ? Mais d'autres moins bienveillants disaient « Ce n'est pas avec ce que vous avez fait que vous pourrez tenter l'habilitation. » Donc, j'hésitais. J'ai souvent eu l'impression d'être une marginale. Je n'ose dire une exclue. Qu'est-ce qui a empêché Colette Cosnier dans sa carrière ? C'est peut-être le refus joyeux d'entrer dans un moule, de suivre même la carrière universitaire classique. Elle s'en moque. Elle publie ailleurs que dans les cercles académiques. Qu'est-ce qui a empêché Colette Cosnier dans sa carrière ? C'est peut-être aussi une forme inconsciente d'auto-invisibilisation, celle que toute femme apprend dans son éducation. Alors, préoccupons-nous de la carrière de Colette Cosnier, conservons sa mémoire. Elle qui a consacré sa vie à l'écriture des oubliés, pour les faire sortir de l'oubli, pour en conserver la mémoire. Elle qui a écrit des romans, des pièces de théâtre, des essais, fait de la radio et même fait des films. Toute son œuvre revendique une autre place pour les femmes, une autre place pour elle-même. Toute son écriture est consciente des contradictions qui emprisonnent les femmes dans un rôle et les assignent à une place inférieure ou retirée dans le silence. Alors, il est temps de lire et faire lire la grande autrice Colette Cosnier. Je vous invite à lire toute son œuvre, en commençant peut-être, à rebours, par la rencontre imaginaire, joyeuse, créative et très documentée de Patricia Godard avec Colette Cosnier. Un féminisme en toutes lettres.